Le don du sang, un engagement au quotidien. Chaque année, 1 million de patients sont soignés grâce au don de sang et aux 750 000 bénévoles associatifs. Prochainement, de nombreuses collectes sont organisées sur la région. Au micro de Chris Alessandri, Michel Fougerat, président de l'association du don du sang de la Poste Orange, délégué PACA, et Richard Leriguier, président de l'Union départementale pour les donneurs de sang des Alpes de Haute-Provence. Michel et Richard, deux petits mots sur l'action que vous menez et puis cette volonté qu'il y a derrière tout ça. J'ai presque envie de dire ce feu sacré également.
Effectivement, on peut parler de feu sacré. Comme Obélix, moi je suis tombé dans la marmite étant petit, ma mère étant une grande donneuse universelle. Et culturellement, nous on a toujours pensé que donner du sang, aider son prochain, ça faisait partie de notre vie, de celle qu'on vit et celle qu'on donne. Qu'en pense Richard ?
Don du sang, oui, don du sang, c'est un don très particulier, le don du sang. Hein. C'est un don de vie, proprement dit, c'est-à-dire on peut le faire durant sa vie et on peut le faire durant presque toute sa vie, puisque c'est de l'âge de 18 ans à la veille de votre 71e anniversaire. Donc oui, c'est très important parce que c'est un don de vie pour nous et c'est un don de vie pour les autres. Sachez que à chaque fois que vous allez donner une poche de sang, vous pouvez sauver 3 vies.
Oui, alors on parle toujours de sang et on oublie les composantes du sang qui sont aussi essentielles. Le sang est composé à 85% de plasma, 1% de plaquettes et 49% donc de globules rouges. Alors en ce moment, donc il y a un grand projet national qui s'appelle Ambition Plasma qui vise à augmenter nos collectes de plasma car les besoins pour la France sont de 1,4 million de litres. Je répète, 1,4 million de litres. Ce chiffre, aussi effarant qu'il soit, et ce sont les besoins que nous avons en plasma pour soigner nos malades, soit en transfusion directe de plasma thérapeutique, ou alors par les médicaments qui sont dérivés du plasma, avec lesquels on soigne de nombreuses maladies, grâce aux protéines. Donc il y a plus de 300 protéines dans le plasma, dont la principale, c'est l'albumine, qui sert à restaurer le volume sanguin, facteur de coagulation sans lesquels on serait tous hémophiles, bien sûr. Et toutes les immunoglobulines, donc là c'est un mot qui parle, immunoglobuline, c'est immunité, et ça soigne les maladies auto-immunes. Donc 1,4 million de litres de plasma, voilà ce qu'il nous faut en France, et que nous n'avons pas, parce que nous l'avons dans le corps des Français, mais encore a-t-il fallu qu'ils aillent le donner ce plasma. On en importe donc presque 70% de ce plasma, on l'importe des États-Unis à 60%. Et c'est un plasma qui est non éthique, rémunéré, collecté à la frontière mexicaine ou chez les SDF, les camés qui en ont besoin pour se payer une dose de crack. Et pire encore, pour moi, absolument insupportable, ce sont les étudiants qui vendent leur plasma à 40 dollars la poche pour payer leurs études. Bon, heureusement, nous en sommes loin en France, mais il ne faudrait pas que la tendance aille vers ce côté-là de marchandisation du corps.
Donc, mon collègue Michel vient de vous parler du plasma. Sachez que le plasma, la majorité des apports en plasma actuellement sur la France est collectée quand vous allez donner votre sang dans les collectes de sang. Hein. La majorité arrive de là. Les collectes de sang sur le département, pour l'année 2024, il y en a eu 136, c'est-à-dire à peu près une tous les 2 jours et demi. Vous voyez que le département est très bien couvert par l'EFS, l'établissement français du sang. Il nous a permis d'avoir 5 700 personnes qui se sont présentées pour donner leur sang sur une population d'environ 161 000 personnes sur le département du 04. C'est-à-dire qu'en population brute, 3%, un peu plus de 3% viennent donner leur sang. Si on considère les personnes qui ne peuvent pas donner, les personnes qui sont un peu trop vieilles, les personnes qui ont des problèmes de santé au moment du don, on est à plus de 4% de la population des Basses-Alpes qui vient donner son sang, et en plus de ça, régulièrement. Donc, par rapport aux statistiques nationales, qui, elles, s'évaluent environ à 1,7% de donneurs, je pense que vous pouvez être fiers de vous, tous les donneurs du 04, parce que nous sommes sur le haut du panier. J'ai des relations importantes avec mon collègue du 05. Et dans le 05, c'est pareil, nous pouvons dire que tout le pays basalpin et haut-alpin donne bien.
Alors, ce qui transparaît dans tout ce que vous nous dites, bien sûr, nous sommes très étonnés de voir qu'il y a autant de personnes qui sont éveillées, qui sont à l'écoute également. Mais moi, ce qui m'intéresse énormément, c'est la façon dont vous avez vous-même été interpellé, parce qu'on sent bien que vous êtes des personnes de contact. En même temps, il y a cette volonté, il y a ce moteur qui est derrière tout ça. Vous êtes de véritables locomotives. Qu'est-ce qui vous a, vous, amené à cette, mais disons, cette attitude, cette façon d'aller et de vouloir communiquer et surtout d'informer?
Alors, personnellement, pour moi, c'était culturel. Quoi. Ma mère était donneuse de sang et mérite. Un jour, elle m'a demandé... J'ai toujours donné mon sang depuis mes 18 ans, puis après à l'armée, puis après pendant ma carrière. Quoi. On arrivait à se libérer facilement de son travail pour aller donner son sang. C'était chose acquise. Et à l'époque, maintenant, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Mais moi, personnellement, j'ai toujours donné mon sang. Et quand on m'a demandé de prendre la présidence de la Poste Orange du 04, j'ai accepté facilement et je me suis un peu pris au jeu. C'est presque devenu une passion, on peut dire, hein, cette envie d'aider les gens. Et puis quand, au fur et à mesure de nos rencontres, de nos séminaires ou des congrès, on rencontre les personnes qui ont été sauvées grâce à nous, et ben on sait pourquoi on se lève le matin. Quand un petit vous dit « c'est grâce à vous que mon papa peut m'amener à l'école le matin parce qu'on a fait un don de moelle osseuse ou on a transfusé suite à un grave accident », bon, on est fiers de nous en fait. Voilà pourquoi. Est-ce qu'il nous maintient ? Ce qui nous donne toujours envie d'aller de l'avant, de continuer, d'insister, et même auprès des gens pour qu'ils participent à cette grande aventure du don de soi, du don de la vie.
Pour Michel, c'était ça. Pour moi, c'est un peu différent. Moi, j'ai commencé ma carrière relativement tôt, à 17 ans, en m'engageant dans l'armée de l'air. Et dans l'armée de l'air, nous avons beaucoup de détachements extérieurs, des opérations qui ont été relativement douloureuses, où on a vu des collègues qui ont eu la nécessité d'avoir des transfusions sur le terrain. Et le CTSA, le centre de transfusion sanguine des armées, a été pour moi une nécessité dès le départ. Donc dès mes 18 ans, j'ai commencé à donner. Et aujourd'hui, cette année, j'en aurai 69. Faites le calcul du nombre de dons que j'ai pu donner à environ 4 par an. Voilà.
Vous avez donc traversé, disons, plusieurs niveaux. Vous avez connu des moments, des instants où effectivement on pouvait donner comme ça sans spontanément. C'est un réflexe. À l'heure actuelle, comment se porte le principe du don de sang ?
Alors, on peut supposer qu'il y a une question de rentabilité qui a été prise en compte depuis 40 ans, on va dire. Moi, à une époque, au début de ma carrière, il y avait un camion de l'EFS qui venait dans la cour de l'établissement. Puis il faisait le plein, il restait là une demi-journée jusqu'à 13h, 14h. Et puis les gens faisaient la queue devant, quoi. On n'avait pas ce souci. Maintenant, vu avec les contraintes sanitaires qui s'imposent, et c'est bien normal, hein, on vient de passer une époque Covid qui a été un peu dramatique pour le monde entier. Et puis, il y a une question de rentabilité. Donc, c'est l'EFS qui est pilote en la matière. C'est l'établissement public de collecteurs, le grand collecteur de sang et de produits sanguins. Organise plus en fonction de ses moyens que de ses besoins. Car bon, il y a toujours une pénurie de médecins, une pénurie de véhicules. Il suffit que le matin de la collecte, le chauffeur soit malade, la collecte dans la ville qui était prévue est annulée. Donc voilà, c'est quand même beaucoup plus compliqué qu'à l'époque où il y avait du personnel peut-être plus facile à recruter. Et on ne parle pas de... C'est même pas une question de salaire, hein, c'est une question d'organisation, de moyens, et puis peut-être de volonté des soignants, là, des infirmières, des médecins qui font ce travail, qui est assez pénible, il faut le reconnaître, parce qu'ils ont des amplitudes horaires phénoménales, ce que tout le monde ne peut pas comprendre, et pourtant, ils bossent comme des malades.
Oui, une évolution, certes, dans le temps. C'est vrai que la France, en général, a des déserts médicaux et ce phénomène touche aussi l'établissement français du sang. Hein. De moins en moins de docteurs s'orientent vers cet établissement qui a été obligé de trouver une manière palliative à ce manque de médecins en formant des infirmières pour pallier ce manque de docteurs. Malgré tout, les collectes continuent. On sait qu'en France, nous avons besoin de 10 000 poches par jour. Et pourquoi ce besoin de 10 000 poches par jour ? Simplement parce que les produits sanguins, ce n'est pas des médicaments qu'on trouve sur étagère. Ils ont des péremptions beaucoup plus courtes. Je vais prendre deux cas bien précis. Les globules rouges ne peuvent être conservés que 42 jours. Et 42 jours, c'est le maximum dans certaines conditions. Et les plaquettes que l'on trouve donc dans notre sang, 7 jours maximum. Et encore, suivant aussi certaines conditions de température et d'hygrométrie. Donc tout ça, c'est des produits dont la France a besoin pour soigner ses malades. Et pour y remédier, eh ben, il n'y a que le don du sang.
Justement, est-ce que les MDS, ces médicaments dérivés du sang, sont bien perçus par la collectivité? Est-ce que le message est passé? Est-ce que l'information est passée là-dessus? Parce que quand on dit don de sang, on voit le don de sang basique.
Alors, en effet, lorsque les personnes, ces volontaires bénévoles, viennent donner leur sang, ils pensent uniquement à l'accident et à la transfusion de sang. Ou peut-être, éventuellement, pour les plus informés, aux hémorragies de la délivrance. Mais en général, le public n'est pas très au courant de ce à quoi sert le sang et quels en sont les médicaments dérivés donc du sang et du plasma. Hein, j'y reviens encore. Les gens ne sont pas éduqués là-dessus. Bon, c'est vrai que c'est un milieu un peu technique, hein, un peu spécialisé. Le sang qui sert dans les accidents, il faut qu'il soit sur les étagères. Et les médicaments dont on a besoin tous les jours pour les malades, que ce soit surtout en cancérologie, il faut qu'ils soient présents en permanence et renouvelés. Un petit exemple, hein, un enfant qui a une leucémie, il va avoir, selon le protocole, une chimio toutes les 3 semaines. Derrière la chimio qui tue toutes les cellules, les bonnes et les mauvaises, pour le requinquer, le pauvre bébé, il va lui falloir 4-5 transfusions de globules rouges. Et en fonction, ça peut varier. Hein, on peut transfuser un jour des globules rouges, le lendemain des plaquettes et le surlendemain du plasma. Et ça, les gens ne connaissent pas réellement l'utilisation, la délivrance de ces produits dérivés du sang.
On peut, pour que les gens comprennent un peu mieux à quoi sert ce plasma, à quoi sert ces globules rouges, à quoi sert ces plaquettes, on peut prendre un exemple très concret que tout le monde connaît. Monsieur Florent Pagny a été soigné d'un cancer du poumon dernièrement et il a été traité par des produits dérivés du plasma. Hein. Donc là, ça parle à tout le monde, je pense.
On parle de la traçabilité du sang. De quelle façon est-ce que c'est, disons, filtré chez nous? De quelle façon est-ce que c'est orchestré par rapport à certains pays? Parce que je sais que là, il y a plusieurs niveaux là aussi.
Oui, alors là, c'est une grosse machinerie, assez complexe, mais très efficace et très précise. À chaque don de sang, chaque collecte, il est prélevé quelques petits tubes et échantillons à des fins d'analyse. Tout est étiqueté avec des codes-barres et on connaît l'origine, le donneur, l'heure, la date, son groupe sanguin, ses caractéristiques. Voilà, et même le nom et le curriculum vitae de l'infirmière qui a fait la prise de sang. Tout est tracé, mais d'une façon phénoménale. Ce sang est amené donc après, ensuite pour nous, à Marseille, à la Vallée Verte, où il est qualifié. Donc analysé, traité, viraux atténué, parce qu'on ne peut pas transmettre non plus des virus d'un donneur qui a peut-être la grippe sans le savoir, ou autre, ou pire. Donc tous ces produits sont viraux atténués. Des analyses sont envoyées sur un labo, pour nous c'est à Montpellier, pour la détection de toutes les maladies possibles. Si jamais il y a un incident, un seul germe, ou un doute, même ne serait-ce qu'un doute, la poche est détruite. Et le donneur, lui, est avisé immédiatement de ce problème pathologique, qui peut être minime, hein, mais même très minime. Il est avisé et le sang est détruit. Pour ne prendre absolument aucun risque.
Côté information, il faut que l'information passe. Et c'est vrai que de ce côté-là, les organismes, dons de sang, ont fait vraiment un pas extraordinaire. Vous avez Marguerite Info, entre autres, parmi la façon de faire passer le message.
Oui, alors il y a Marguerite Info pour nous, donc don du sang à la Poste Orange. Et pour la Fédération française des donneurs de sang bénévoles, la FFDSB, il y a le magazine qui s'appelle DSB. DSB Info. Alors on n'est pas concurrent du tout. Hein. On ne gagne pas d'argent là-dessus. On fait simplement connaître ce qu'on fait. En fait, on est transparent. On fait ce qu'on dit et on dit ce qu'on fait. On le montre, on l'explique et on partage. Et on invite les gens à partager aussi. C'est par le plus grand nombre de donneurs, de bénévoles qu'on arrivera peut-être un jour à une autonomie suffisante. Bon, il y a encore beaucoup de boulot, mais on y espère, on y croit.
Oui, tous ces magazines, toutes ces informations sont là exprès pour notre visibilité, de telle manière à effectivement récupérer des nouveaux donneurs, que l'on espère jeunes, de telle manière à ce qu'ils puissent donner longtemps. Et surtout, et encore, surtout aussi trouver des bénévoles pour venir remplacer nos bénévoles dans nos associations, hein, de donneurs de sang, qui deviennent de plus en plus âgés et donc ça devient pour eux de plus en plus pénible parce que le travail de bénévole dans une association de donneurs de sang bénévole n'est pas une mince affaire. Il y a du fléchage, il y a de la recherche pour justement chercher ces nouveaux donneurs. Donc toute information que l'on peut transmettre, que ce soit par votre biais, merci à Mistral de nous accorder cette interview, ou d'autres stations radio ou de télévision. Et le FS aussi participe avec toutes les interventions radio et télévisées qu'ils peuvent avoir. C'est très important. Il y a des informations publiques qui passent plus ou moins inaperçues et j'aimerais que celles-ci soient quand même prises en compte. Actuellement est déposé à l'Assemblée nationale un projet de loi pour les gens qui ont été transfusés, parce que vous savez que les transfusés actuellement ne peuvent plus redonner leur sang. Or, un projet de loi vient d'être déposé de telle manière à ce que ces personnes qui sont pour l'instant bloquées dans le don du sang alors qu'elles voudraient donner, j'ai été contacté plusieurs fois par des jeunes personnes, quand je parle de jeunes personnes, c'est 30-35 ans qui avaient été transfusés étant jeunes, comme on en parlait tout à l'heure, des enfants qui sont transfusés à la naissance pour des problèmes de cancer, ne peuvent plus donner, même quand ils ont 50 ans, ce qui est fortement dommage. Donc actuellement, il y a un projet de loi qui est déposé à l'Assemblée nationale pour que tout ça soit revu et que peut-être ce parapluie que met l'ARS soit levé. Voilà, il fallait que ça passe.
Le plasma thérapeutique, moins connu, mais tout aussi vital et indispensable. Et là, vous avez mis en place également un principe de transport. Et ça, c'est innovant. Et le côté pratique, vous l'avez mis en valeur.
Oui, en effet. Donc, il faut savoir que si on peut coller du plasma dans le sang total, on le sépare des autres éléments, des globules rouges et des plaquettes par centrifugation. Vu qu'ils n'ont pas la même densité, ils vont se séparer. Mais ce plasma-là ne pourra servir qu'à faire des médicaments. Le plasma thérapeutique, qui lui est directement injecté aux malades, pour la plupart graves quand même, hein, ou les blessés graves, ne peut être issu qu'une poche entière, totale, et donc par plasma phérèse. C'est une machine qui retire le sang, qui le centrifuge et qui restitue au donneur ses globules rouges. Il ne garde que le plasma. On parle de plasma thérapeutique, c'est ce plasma-là qui va être directement transfusé. Et donc, il ne peut être fait qu'en maison du don, pas en collecte mobile. Et dans les 04 et 05, malheureusement, nous n'avons pas cette maison du don qu'on souhaite tant. On aimerait tant en avoir une, même éphémère, une éphémère qui serait 10 jours à Sisteron, 10 jours à Gap, 10 jours à Digne, voilà, et tournant, ça rendrait bien des services. Et ça permettrait à tous ces donneurs qui ont envie de donner, mais qui n'ont pas le temps, ou pas les moyens, ou pas de véhicule, ou de se rendre à la maison du don d'Aix. Donc pour cela, j'ai créé une navette plasma au départ de Digne, pour le moment, pour amener les donneurs à destination de la maison du don d'Aix. Alors j'ai commencé ça l'année dernière, la première a eu lieu le 18 juin. J'ai choisi cette date exprès, en rappel de l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Mais bon, ça a bien fonctionné jusqu'à ce que, juste avant l'hiver, le prestataire qui me prêtait le minibus vende le minibus. Et donc, j'en ai fait encore quelques-unes derrière avec mon véhicule privé, mais je ne pouvais amener que 3 ou 4 donneurs à la fois. Donc, c'était vraiment pas intéressant, fatigant. Et donc là, je suis de nouveau en recherche de prestataire. Je pense en avoir trouvé un qui pourra me dépanner. Je ne vais pas le citer aujourd'hui, mais c'est un club de sport de Digne. Donc je pense reprendre ces navettes plasma dans les 15 jours qui suivent, car j'ai déjà maintenant des demandes. C'est les anciens donneurs de plasma qui venaient, même pour certaines 2 ou 3 fois, hein, puisqu'on peut donner notre plasma tous les 15 jours, entre chaque don, c'est 15 jours entre chaque don, qui se renseignent auprès de l'FS lors des collectes pour demander quand est-ce qu'il y a une nouvelle navette plasma. Donc je les rassure, ceux qui m'écoutent, qui écoutent Fréquence Mistral, on va reprendre notre aventure dans peu de temps.
Richard et Michel, vous êtes des hommes d'action. Vous avez un planning extrêmement chargé, avec bon nombre de dates, de rendez-vous que vous fixez. Vous attendez toujours beaucoup de monde, et ça, c'est grâce au travail que vous avez mis en place.
En effet, donc, comme disait Richard tout à l'heure, nous avons fait 136 collectes l'année dernière. Alors, dans ces collectes, elles ne sont pas toutes équitables. Hein. Il y a quelquefois des refus, des absences, des rendez-vous loupés. Lorsqu'on peut prendre peut-être 45 donneurs, eh bien, il n'y en a que 40. Donc, on essaie de booster un petit peu tout ça. Donc, je vais vous faire un peu l'annonce des principales collectes à venir. La plus importante pour moi aujourd'hui, c'est celle du 28 mars à Sisteron, à la salle de l'Alcazar. Donc, tous les gens de la région du bassin Moyen-Durance la connaissent bien. donc le 28 mars, la prochaine, on va dire le 2 avril 2025 à Digne-les-Bains. Ensuite, on aurait le 10 avril à La Ragne, le 15-04 au Raison, le 18-04-25 à Pervuit. Donc là, je n'ai cité que les villes un peu qui sont autour de la moyenne endurance. C'est parce que j'essaye de créer un bassin, un vivier de donneurs de plasma dans ce bassin-là pour faire des navettes directes Sisteron-Aix. Mais il suffit de, pour les volontaires qui ont envie de donner leur sang, d'aller sur le site efssanté.fr et vous avez la liste des collectes. Vous voulez donner votre sang, prenez rendez-vous. Vous cliquez sur la carte, vous rentrez le code postal et vous aurez toutes les infos. efssanté.fr.
Alors pour tous les jeunes qui auraient tendance à vouloir donner leur sang, je vous signale quand même qu'il y a une application qu'on peut charger sur son iPhone ou sur son Android et qui vous donne exactement les mêmes renseignements aussi précis que sur votre ordinateur si vous alliez chercher à vous inscrire pour un don du sang. Mais de plus, avec cette application, vous pourrez demander aussi votre carte de donneur. Ce n'est pas indispensable, mais c'est quand même bien utile d'avoir sa carte de donneur sur soi, parce que quand il nous arrive un problème, et je pense dans notre pays alpin, en randonnée ou au ski, si vous cassez la jambe, vous avez votre carte de donneur sur vous, ça renseigne de suite les services médicaux qui vont vous prendre en charge. Voilà. Dans le cadre des actions des bénévoles de nos associations donneurs de sang bénévoles, nous intervenons en milieu scolaire au niveau du CM1, CM2, CP, mais aussi au niveau des collèges. L'EFS a organisé des formations pour nos bénévoles, justement, dans le cadre de ces interventions scolaires, de telle manière à ce que le message du don soit un message parfaitement compréhensible pour nos jeunes têtes chevelues, ou pas, et que ce message soit transmis par ces jeunes à leurs parents, de telle manière à trouver encore, si possible, de nouveaux donneurs.
En effet, les enfants et les collégiens, les jeunes en général, sont d'excellents promoteurs par rapport à leurs parents.
Est-ce qu'on peut tirer un profil des personnes qui spontanément ont envie de donner leur sang ? Est-ce que le profil a changé ? De quelle façon ça a évolué ?
C'est difficile à dire. On pourrait croire que les gens qui ont été confrontés à la maladie ou à la transfusion sont plus bénévoles, plus donneurs que d'autres. Mais ce n'est pas le cas. Je pense que nous l'avons en nous, cet altruisme, cette empathie. On a été informés par les parents, par les écoles primaires peut-être, puisqu'il y a des campagnes de sensibilisation au don du sang, par les médias, la télé peut-être aussi, mais on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a un profil plus qu'un autre, qui soit donneur ou non donneur. Ce qui sépare les gens, je crois que c'est le manque de temps et la distance.
Alors effectivement, il y a tout ça, et puis il y a aussi, on croise souvent des personnes qui viennent donner leur sang parce que dans leurs amis ou dans leurs proches, une personne a été particulièrement touchée par cette capacité d'avoir à portée de main à l'hôpital un don de sang, une transfusion. Et là, la question se pose, la remise en question se pose de d'où vient ce sang. Et à partir de ce moment-là, on se rend compte qu'on n'a jamais de temps de donner, mais on a toujours du temps pour le recevoir. Et c'est là qu'effectivement, on trouve le temps pour le donner.
On sent bien que les personnes s'impliquent grâce à votre travail, à votre information également. Donc il y a bon nombre de donneurs de sang. Et pourtant, on manque de sang. Il y a un paradoxe. Qu'est-ce qui se passe ?
Comme je le disais, pour beaucoup de personnes, c'est le manque de temps. Il y a une collecte mobile dans la ville, mais ils sont pris par le boulot. Le patron ne veut pas laisser partir. Ils doivent se déplacer, aller plus loin. Ils ont oublié de prendre rendez-vous et... Voilà, donc le sang, on l'a dans notre corps, mais il faut amener ce corps jusqu'à la collecte. Et c'est peut-être un peu de laxisme de la part de certains, ou tout simplement de la méconnaissance. Et cette méconnaissance sera comblée, ils auront la connaissance le jour où peut-être quelqu'un de leur famille aura besoin de ce produit magique qui est le sang. Et à ce moment-là, ils en prendront conscience. Alors que c'est maintenant qu'il faudrait qu'ils en prennent conscience, tant qu'ils sont en bonne santé.
À toutes et tous, sachez que donner son sang, c'est donner la vie. Et la vie, je pense qu'on la partage tous dans le monde que nous vivons, qui est de plus en plus pour soi et pas pour les autres. Pensez un peu aux autres et essayez de partager quelque chose qui ne vous coûte rien, que du bien. Parce qu'un don de sang, il faut savoir que ça booste aussi l'organisme. Ça booste l'organisme dans la mesure où il est obligé de compenser ce qu'on vient de lui prendre. Et ça va vous faire du bien, Ça va vous faire du bien physiquement, puis ça va vous faire du bien mentalement aussi, de savoir que derrière votre don, il y a des malades, il y a des accidentés, il y a des jeunes enfants qui n'attendent que ça pour pouvoir vivre, survivre. Donc penser à donner, c'est penser aux autres pour qu'ils vivent.
Que dire de plus ? Simplement peut-être rappeler le rendez-vous, prochain rendez-vous, et puis le mot de la fin, je vous le laisse, c'est vous qui allez le donner à nos auditeurs.
Donc le prochain rendez-vous sur Sisteron, ce sera ce 28 mars après-midi, salle de l'El Khazar. Et le mot de la fin, écoutez, c'est venez nombreux, venez nous rejoindre, prenez conscience de ce que vous êtes, des personnes humaines, et avec ce que ça comporte comme empathie, générosité et faiblesse aussi. Voilà, merci de venir, merci de nous retrouver, venez donner.
La vie de l'autre dépend de la vôtre. Votre sang n'est pas un bien complètement attribué à votre personne. Vous pouvez le partager, c'est quelque chose qui ne vous coûtera rien et qui vous rapportera beaucoup. Merci.